Here we go with the main event of the evening. Let's get ready to rumble.
Ask droite gauche droite sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, nature au Parsi, l'aide de Rosemont, Arthur au Garci. On va jouer carte sur table. J'en pense quoi du combat de Jean-Pascal? On va passer pro, boxer et podcast. Laurent, c'est pour parler, bienvenue sur le podcast.
And the new
en direct de ma cuisine de Rosemont, Montréal, c'est l'épisode numéro 93 de ton podcast préféré, Laurent s'écoute parler. Épisode quand même historique parce que, ben, vous le savez à la maison, je suis un grand partisan du test de son. Je suis un grand partisan du Canadien de Montréal et en 93, c'est la dernière fois qu'on a gagné la Coupe Stanley. 93 aussi, pour ceux qui s'en rappellent, moi je m'en rappelle très bien, c'est l'année que Mario Lemieux avait eu le cancer du Hodgkin, une maladie assez grave, merci. Qu'est-ce qui s'était passé d'autre? Les Canadiens gagnant la Coupe Stanley, je vois toujours dans mes souvenirs personnels, là, c'est ça, j'essaie vraiment que le podcast soit le plus humain possible. Au lieu de vous lire Wikipédia, j'y vais dans mes souvenirs personnels. Donc, c'est ça, le Canadien a gagné la Coupe. On se rappelle qu'il y avait eu une émeute qui avait coûté près de 10 millions de dollars en dégâts. Kim Campbell était devenue la première ministre du Canada 4 jours après la Coupe Stanley. Fait que ça a passé un peu dans le beurre. Kim Campbell, qui demeure encore à ce jour la seule à avoir été première ministre du Canada. Alexandre Daigle avait été choix de première ronde des sénateurs d'Ottawa. Jocelyn Thibault avait été celui des Nordiques. Et le Canadien avait repêché Sébastien Bordelot, bien connu de sa famille. Inauguration du Casino de Montréal, où on est tous déjà allés perdre nos payes. N'ayons pas peur des mots. Salaire minimum à l'époque, 5,85. C'est quand même 5,85. C'est assez tranquille comme salaire minimum. J'ai eu une assez grosse semaine. N'ayons pas peur des mots. J'étais en vacances, fait que je fais pas grand-chose. Je prends des marches. Je vais à l'épicerie. J'étais allé voir les Redbirds de McGill contre les Stingers de Concordia. Et ça, je vais vous dire, c'était assez grandiose. Merci. Ça a fini 36-33 pour Concordia, qui perdait à peu près par 20 points. Et cette année, pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire Paulin Gaudreau, il y a vraiment une parité dans le football universitaire canadien qui fait que c'est complètement différent de l'habitude où Laval gagnait par 70 points. Cette époque-là est révolue. Les Alouettes de Montréal, qui devaient avoir un bon club cette année, sont vraiment tout croche. Pendant mes vacances, j'en ai profité pour réécouter Omerta pour la 14e fois et ben, c'est toujours aussi bon. Hein? Pour ceux qui boudent la télé québécoise, mais au moins, ne boudez pas Omerta. C'est mon commentaire. C'est réglé. Manny Pacquiao sera candidat au présidentiel de 2022, ce qui mettra fin à sa carrière de boxeur. Donc, on peut pas quand même pas être président puis boxeur. Disgrâce. Evander Holyfield, Luis Ortiz, disgracieux. Tout le monde en parle. Il y a eu deux conférences de presse cette semaine. Il y a eu l'annonce du gala de boxe complet de Eye of the Tiger le 23 septembre prochain. On a eu les combats, dont on va en parler en long et en large. Et on a eu une conférence de groupe Yvon Michel pour parler de le combat entre Brian Jennings et Oscar Rivas. Aussi, Marc Ramsey devient entraîneur principal de Eye of the Tiger. On va en parler aujourd'hui, mais tout a été pas mal dit, mais vous n'avez pas entendu mes opinions. Puis moi, des opinions, j'en ai, quitte à perdre des amis. Fait qu'on va parler de ça. Moi, je me dis, écoutez, là, je dis ce que j'ai à dire, puis après ça, on ramassera les pots cassés autour. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Il me semble que j'avais d'autres affaires à vous conter. Ça me revient pas dans mes souvenirs, ça me reviendra plus tard. Début du... oubliez pas d'aller voter le 20 septembre. Je veux pas être moralisateur, mais des gens qui meurent pour aller voter, puis pour leur liberté. Donc, votez pour qui vous voulez, mais votez. Ceci est un message d'Élections Canada. Depuis environ 4 ans, tout va mal au Canada. On n'a plus les combats qu'on veut. Le matchmaking est parfois critiqué. Les boxeurs semblent protéger leurs fiches à tout prix et prennent de moins en moins de défis. Le 23 septembre prochain, en votant pour le parti Martine Vallière-Bisson, vous obtenez les combats que vous voulez, des boxeurs qui acceptent n'importe quel défi. Fini les histoires de promoteurs, fini les histoires de groupes de télévision qui empêchent tel combat. Avec le parti Martine Vallière-Bisson, obtenez les combats que vous voulez, quand vous voulez. Le 23 septembre prochain, je vote Martine dans Le Moine. Cette publicité est payée et autorisée par l'agent officiel de Martine Vallière-Bisson, Laurent Poulain. Martine Vallière-Bisson prend une place énorme dans ma vie. Elle va prendre une place énorme aussi dans le podcast numéro 93. Pourquoi? Parce que Martine, c'est un exemple pour la jeunesse. C'est un modèle pour la communauté. Dans le monde de la boxe, qu'est-ce qu'on critique? On critique les boxeurs. Il y a cette culture-là de protéger le zéro à tout prix, de rester invaincu, de quasiment mettre sur pause une progression ou un matchmaking logique pour gagner à tout prix puis espérer progresser en gymnase en prenant les défis les plus simples possibles. Là, régler ça facilement. Puis là, un jour, on t'amène un boxeur de ton niveau ou de niveau supérieur et tu t'effoires devant le défi. Combien de fois on a vu ça au Québec? Des fiches protégées, des fiches gonflées. Et là arrive le test ultime, un combat pour l'aspirant numéro 1 ou un combat de championnat du monde. Puis là, le boxeur qu'on a suivi pendant 30 combats, qu'on a appris à aimer, qu'on a cru les promoteurs, il se fait dévisser au deuxième round. Il rentre ici avec des prunes puis des poires, puis on n'entend plus jamais parler. C'est ça que vous voulez? C'est votre modèle pour la boxe québécoise? C'est pas le mien. Moi, je veux des boxeurs qui sont rapidement testés puis qu'on sache rapidement ce qu'ils ont dans le corps. Martine Vallière-Bisson, mon idole. On va se le dire, là. Le terme, c'est « short notice », petit délai. Pensez pas qu'elle a eu ce combat-là il y a un an et demi. Puis pensez pas que je vais vous dévoiler tous les secrets. Mais dites-vous que le délai est court. On l'appelle. Elle est en train de travailler. Elle travaille tout le temps. Puis on lui dit, t'attends-tu de te battre? Bientôt. Très bientôt. Ouais. Martine, elle ne demande pas contre qui. Elle ne demande pas où. Elle ne demande pas comment. Oui. Oui, je veux me battre. Elle veut tout le temps se battre. C'est la personne la plus douce et gentille qui veut tout le temps se battre. On lui dit, ok, mais il y a un mais. Il y a toujours un mais dans la vie. C'est la COVID, puis tout, on n'a pas trouvé des millions d'adversaires pour tout. On a trouvé une fille. Elle dit, j'espère, parce que je fais de la boxe féminine. Trouver une fille, là, qui nous vient de l'Ontario. Elle dit, ok, n'importe qui, envoyez le contrat, je m'en fous. Ouais, mais attends. Si la fille, elle a 10 fois plus d'expérience que toi. Toi, là, Martine, elle est 3-0. Son adversaire, elle a 9 victoires, 7 défaites, 2 nuls, plus 12 combats en arts martiaux mixtes. C'est une culturiste. Une fille qui vient des arts martiaux mixtes, qui fait de la boxe aussi. Culturiste. Des abdos à l'année longue. Une diète de vie irréprochable. Mais là, Martine, elle dit, je m'en fous, tu sais, je suis prêt à affronter n'importe qui. Mais là, les gens, ils disent, oui, mais là, attends, là. Cette fille-là, elle s'est battue 9 fois en championnat du monde. Vous avez bien entendu, 9 fois en championnat du monde. Elle a des victoires sur Maureen Shee, sur une grosse carte aux États-Unis. Une fille, Maureen Shee, qui était sur la carte de Demetrius Andrade, qui était en montée, s'est fait arrêter par KO par Lindsay Gerbat. Elle a des victoires sur Lucia Larcinez, la Québécoise. Elle a des victoires sur Melissa Hernandez. Melissa Hernandez, aujourd'hui, ben, rendue vieille, mais à Porto Rico, c'est une légende. C'est une fille qui a été championne du monde. Mais elle s'est faite battre par Lindsay Garbat. Elle a une nulle puis une victoire sur Melissa Hernandez. Elle a deux victoires sur Jelena Mrdjovic. Deux victoires sur Jelena Mrdjovic. Jelena Mrdjovic, c'est la meilleure boxeuse de l'histoire du Canada, selon à peu près tout le monde. Elle a fait une trilogie avec elle. Elle a deux victoires. Elle a perdu un combat excessivement serré contre Ronica Jeffrey. Ronica Jeffrey, championne WBC 17-1, est avec Brian Cowan. Elle a été longtemps surnommée la reine de la boxe féminine. Martine, là, c'est pas... Et même, cette fille-là est même allée en championnat du monde en Chine à son avant-dernier combat. Il y avait deux juges qui avaient... Un juge qui avait 95-95, puis l'autre 96-94. Martine, là, elle prend pas les marches deux à la fois. Elle va trois marches à la fois. Martine est 3-0. Elle affronte une fille de 18 combats qui a 9 combats de championnat du monde. Cette fille-là, elle a le triple de l'expérience en championnat du monde que Martine a d'expérience sur le ring. Ça vous donne-tu une petite idée? Mais Martine, là, elle protège pas sa fiche. Martine n'a pas envie qu'on la dorlote. Elle n'a pas envie de se promener et dire « Je suis 12-0, j'ai affronté 12 manchots. » Non. Amenez-moi les meilleurs. Je mords dans le mouthpiece. Je vais prouver à tout le monde ce que je vaux. Puis je vais gagner. Puis je vais être dans le classement. Puis je vais aller me battre au Rexall Center contre Jelena Mrdjovic. Puis dans 2 ans, je vais être en championnat du monde. Puis si ça marche pas, là, j'ai déjà gagné dans la vie. J'ai Laurent Poulain comme meilleur ami. Je vais retourner travailler, puis j'aurai laissé aucun regret derrière. Mais nos vies, là, on devrait les mener comme Martine Vallière-Bisson. Moi, là, je devrais essayer de devenir le meilleur podcasteur de l'histoire. Je devrais apprendre à faire des vidéos. Je devrais être partout. D'ailleurs, je suis quasiment partout. Puis Martine, elle, avoir inspiré le Québec. Martine, à l'époque où les gens protègent leurs fiches, que la culture du zéro, de « je veux pas affronter un tel parce que c'est dangereux, je veux pas affronter un tel parce qu'il frappe fort, je veux pas affronter un tel parce que mon père veut pas. » Martine, demandez-vous si elle a appelé son père pour savoir si elle pouvait affronter Lindsay Garbutt. Non, la décision y revient. C'est elle, l'athlète, c'est elle qui décide. Elle s'est pas cachée derrière son gérant que ça y tentait peut-être pas. Elle s'est pas cachée derrière son coach qui a dit non. Elle s'est pas cachée derrière son meilleur ami qui a dit « Ouais, elle a bien de l'expérience, hein, ça c'est moi. » Non. Elle y va tête première, elle vit ses rêves, elle mord dans le mouthpiece. Martine, t'es une inspiration, t'es mon idole, puis j'aimerais ça avoir ne serait-ce que 10% de ton courage. Et le 23 septembre prochain, c'est ta journée, c'est ton événement, puis tu vas devenir une légende dans le cœur des Québécois et Québécoises.
My name is Anthony. I speak English. Mais je peux parler français parce que de le podcast de Laurent Poulain. Merci.
Ma sœur est une fédéraliste convaincue qui a élevé son fils en anglais. Donc, il baragouine le français quand il parle avec son oncle, qui est moi. Et c'est un petit gars qui aime beaucoup l'argent. Il accumule l'argent dans sa tirelire. Il a fallu que je lui donne 5 piastres pour cette publicité de 10 secondes. Vous voyez qu'il connaît les dollars et qu'il casse assez bien le français. J'étais allé à la vente chez Rival Boxing et là, je vais vous dire, là, c'était dans le fin fond de Saint-Léonard. Puis moi, je suis parti en autobus. Ça m'a pris 1h30, mais bon, j'écoutais mes petits programmes. Puis là, quand j'étais arrivé là-bas, là, ça faisait 20 minutes, c'était ouvert. J'ai capoté. Je me sentais comme un enfant dans un plat de bonbons. Ross Amber, je ne sais pas quelle mouche qu'il avait piqué, mais les prix étaient ridiculement bas. Il vendait les chemises qu'il a portées dans le coin avec Elander Alvarez et Oscar Rivas. Il y en a trop, lui, il vendait. Fait que j'ai acheté deux chemises d'Elander, une chemise de Kaboom, mais 20$ chaque. Tu sais, des pièces de collection de l'histoire de la boxe québécoise. J'ai acheté les gants de Jean-Pascal contre Lucien Bouté. Tu sais, quand ils mettent 4 paires sur la table, puis là, l'adversaire choisit une paire. Le combattant choisit une paire, puis les deux autres paires, on les jette. Ils surveillent le fond, puis ils font comme oh, ceux-là, je les aime pas, ils pitchent, t'as pas le droit de les prendre, j'ai pas le droit de les prendre. Chaque adversaire a le droit de retirer une paire de gants, ensuite, un choisit, puis l'autre prend l'autre. Il y a une patente de même, là, où t'arrives avec 4 paires de gants, puis là, l'adversaire aussi, en tout cas, pas trop compris, là. Mais bref, j'ai une des paires de gants qui a été relâchée. T'sais. Donc, on parle de gants professionnels. C'était en vente 80$. Il y avait les petits gants, là, des mini gants rival. D'habitude, c'est 10$ en boutique. Ils vendaient ça 2$. Et je suis arrivé avec mon grand sac. J'ai pris les gants de Jean-Pascal, quand même une pièce d'histoire contre Lucien Bouté. J'ai pris 4 vestes. 3 Elander Alvarez, une Oscar Rivas, une veste que je vais remettre à mon bon ami David Saint-Martin pour la collection de son fils, mais la vérité, c'est que je vais quand même charger le 20$ là, parce que je suis assez proche de mes scènes. Et j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un beau petit sac à dos de Canelo Alvarez. Donc, j'étais assez heureux, merci. J'en revenais pas des prix. Il y avait des boxeurs professionnels sur place. J'ai vu Arthur Beterbiev. J'ai vu Jessica Camara. J'ai vu Erika Jeannette Hernandez. J'ai vu Christopher Guerrero. Il y avait Oscar Kaboom Rivas qui est venu faire un tour. Il me semble qu'on m'a dit que Jean-Pascal allait y aller. En tout cas, c'était... J'ai même vu des blogueurs des gens qui font de la compétition, des gens qui m'ont barré partout sur Instagram, mais que, dans le fond, moi... Je l'aurais fait de la belle façon quand même. Il y avait... Excusez-moi. Ne jamais s'étouffer en onde. Il y avait... c'est ça, il y avait Manny Montréal qui était là. Bref, c'était beau de voir tous ces gens-là. Sébastien Gauthier, avec qui j'ai piqué une petite jasette. C'était beau de voir toute cette communauté boxe-là qui était ensemble. Et Ross m'a payé, tenez-vous bien, il y avait même Décari Hot Dog qui était là. Ross m'a payé un hot dog, une frite et une liqueur. Là, j'étais impressionné. J'ai dit merci, mon Ross, t'as compris une affaire que t'as vraiment affaire avec un gourmand devant toi. Donc, la vente chez Rival, une fois par année, tout est à 75% de rabais et plus. La prochaine fois, je vais vous en parler. Garochez-vous. Sinon, c'est tout moi qui va les avoir, les items de collection dans mes affaires. Puis, en même temps, c'est bien correct. Cette semaine, on a eu la carte complète de High of the Tiger Management. Le 23 septembre prochain, je viens de vous parler de long en large de ma bonne amie Martine Vallière-Bisson.
Couillard pour Laurence Écoute Parler. J'aimerais qu'on mette un peu la lumière sur un nouveau boxeur pro qui va faire ses débuts le 23 septembre prochain dans un gala de Eye of the Tiger. Il s'agit de Jean-François Gardy. Jean-François Gardy qui va évoluer dans la catégorie des 136 livres. C'est un boxeur très agile, très intelligent, bon boxing IQ, qui sait faire preuve aussi de beaucoup de puissance dans ses combats. Il s'est notamment démarqué beaucoup dans sa carrière amateur. Il a affronté un peu tout le monde dans sa catégorie respective. Puis, il s'est énormément démarqué, notamment lors des dernières sélections olympiques canadiennes, dans des combats enflammés. Donc, c'est vraiment un nouveau boxeur à suivre, puis un très, très beau talent qu'on va voir là, le 23 septembre prochain.
OK, j'ai mis un marqueur. Vous allez voir, là, c'est tout bien pensé. Vous venez d'entendre les commentaires de Sarah Couillard qui parle de Jean Gardy François. C'est pour ça que j'ai mis un petit silence, puisque les commentaires ils sont arrivés par après, mais avec la magie du montage, j'avais rien vu. Jean Gardy François, qui est un boxeur âgé de 30 ans, appartenant au club de boxe de l'Est, va passer chez les pros contre Jacob Georges. Jacob Georges, qui est lui un boxeur invaincu de la du nord de Vancouver a gagné ses débuts professionnels cette année au mois de mars. Donc, on parle d'un gars invaincu contre quelqu'un qui passe pro. On m'a dit beaucoup de belles choses de Jean Gardy, François. Vous les avez entendues de Sarah Couillard. Et là, on va voir. Je dis, le gars, il se paye un trip, il passe pro à 30 ans. C'est un... Il travaille, c'est pas comme un éducateur spécialisé, là. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a une belle boxe, ce que j'entends. Donc, tant mieux, tu sais, il va faire un petit tour. Sylvain Pelletier, que j'ai appelé mon expert en boxe amateur, m'a dit, oh, il va faire une coupe de combat, il va triper, tu sais. Après ça, Hubert Poulin va affronter Stuart Stwardzik. Mais Stuart Stwardzik, c'est un gars qui a de la boxe amateur un peu dans le corps, puis qui est 1-0. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent bien leur boxe qui m'ont dit un instant, là, Stuart Stwardzik, il était en finale contre Schiller Hippolyte dans le temps au Canadien. C'est un gars qu'on a vu au Canadien souvent. On l'a vu contre Schiller Hippolyte, on l'a vu au Canadien contre Joe Griffith, Robert Sherman. Il a affronté Brody Blair en finale, il a affronté Thibault en finale. Là, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit wow, là, il s'est battu contre Luke Keller qui a affronté Demetrius Andrade. Ce gars-là a beaucoup trop de boxe pour Hubert Poulin. Donc, ce que j'entends, c'est que Stuart Stwardzik, lui, devrait vaincre Hubert Poulin. Hubert Poulin, qui est un guerrier entraîné par François Duguay, va devenir une victime de la COVID avec un matchmaking trop difficile. Luis Santana, lui, va affronter Dave Leblon. Dave Leblon, c'est une terreur chez les amateurs. Il a passé pro, il n'a pas protégé nécessairement sa fiche. Il est allé dans le tournoi en Jamaïque où il y avait $1 million pour le gagnant. Et ce qui est arrivé, c'est que c'était vraiment dans des divisions qui étaient au-dessus de la sienne. Il a perdu une décision serrée contre Tetsi Davis. Après ça, il a vaincu Nico Yeo, puis il a fini par perdre contre Phil Rose, le boxeur québécois. Il est retourné l'année d'après encore en Jamaïque, où il a gagné 2 combats, pour ensuite perdre contre Richard Holmes. Il a perdu contre les Québécois Whitney Bell, puis il a perdu contre Sean Thompson, puis Laron White, mais tu sais, il a perdu contre des bons boxeurs, il a des victoires quand même, tu sais, il a battu Nico Yeo, puis il a battu Donovan Campbell. C'est un gars qui sait boxer, c'est clairement le meilleur boxeur que Luis Santana va avoir eu devant lui en début de carrière. Donc, Luis Santana, qui s'était battu seulement au Mexique, va faire ses débuts en sol québécois contre un Québécois qui a eu une belle carrière chez les amateurs, qui a eu des bons défis chez les pros, a été arrêté 2 fois, mais il y a une fois, mais si ma mémoire est bonne, il avait été arrêté en... Il y avait la fois qu'il a été arrêté, là, c'était rapide dans ma mémoire. Je vous dis ça, là, mais en même temps, ma mémoire peut me faire défaut. Donc ça va, tu sais, ça va. Bon duel quand même. On a quelque chose à se mettre sous la dent. Et là, on tombe dans le volet qui est télévisé à TVA Sport. Sur NBC Sports, j'ai vu qu'il y a des Français qui ont acheté le gala. Ça commence à... MBD commence à faire parler de lui. Il va affronter Ronnie Landetta. Landetta, écoute, c'est sûr que c'est de l'extrême dernière minute, là, mais j'imagine qu'on l'avait appelé à l'avance. Landetta s'est battu il y a 6 semaines où il a gagné une unanimous decision. C'est un gars qui a juste 3 défaites contre le champion français au juge. Il y a une défaite... en Russie contre un gars qui est aujourd'hui 20-0, un prospect, là, toute une shape signée par Dimitri Salita, a fait la limite, perdu une majority decision en Russie, puis après ça, il avait quand même bien paru contre Robin Krasniski, c'est ses seules défaites. Donc un méga prospect russe, Robin Krasniski, l'aspirant mondial, puis le champion français. C'est bien correct. C'est le meilleur adversaire que Christian Mbili va avoir eu devant lui. C'est un gars qui est quand même reconnu pour avoir une bonne claque, une bonne endurance. C'est, je le dis là, c'est parfait comme adversaire. Demandez-moi pas de chialer sur celle-là. Puis Arslanbek Makhmoudov, lui, va affronter Erkan Teper. Erkan Teper, 21-3, avait été pris dans un petit scandale de stéroïdes. Mais à un moment donné, on prend ce qu'il y a. Lui, il a battu Newfell Wata, qui était supposé venir ici affronter Simon Kane. Il l'a battu au sixième ronde. Il a battu Johan Duopas au juge. Johan Duopas, c'est la grosse affaire quand même. Il a arrêté David Price au deuxième ronde. Il a battu Derek Rossi, qui avait failli surprendre Berman Stiven, à moins que je sois réellement mêlé. C'était lui, là. Mais ça se peut que je sois mêlé. Hein. Moi, je suis né mêlé. Ah non, j'avais raison, c'est lui. Maudit que je connais ça à la boxe. Après ça, il a perdu une split décision contre Christian Hammer. Perdu une décision serrée contre Marius Wash. Écoutez, c'est un très bon boxeur, Ergan Tepper. C'est de savoir à quel niveau il va être revenu, parce qu'il a été plutôt inactif depuis 2018. Mais est-ce que moi, je vais me plaindre? Parce que Arslanbek Makhmoudov affronte le meilleur adversaire qu'il a eu devant lui depuis le début. Mbili reçoit le meilleur adversaire qu'il a eu devant lui depuis le début. Tout ça avec ma Martine en sous-carte. Je dis, je suis en vacances, là. Je m'en vais à Québec avec un maudit gros sourire d'en face. Ça, c'est une carte qui semblait être un désastre. On a vu tous les combats se faire annuler cette semaine. Puis au final, il reste quand même tout ça. Puis pour ceux qui chialent, je vais vous donner mon truc que je donne à tout le monde depuis toujours. Achetez donc vos billets la journée du gala si les changements vous dérangent. Moi, ça me dérange, les changements. Moi, je vais vous dire, si j'étais pas accrédité comme journaliste, j'achète mon billet le jour même. Puis je me fie pas sur les cartes qu'on me donne. Léla Beaudoin, Steven Butler, Clovis Drolet. Il y en a eu des combats annulés cette semaine, là. Moi, là, si j'étais vous, les promoteurs vont me détester. Mais si ça m'affecte réellement les changements de cartes puis les combats qui tombent à l'eau, j'achète mon billet 4 heures avant le gala. C'est ça que je faisais à l'époque, que j'achetais des billets avant de devenir une superstar du monde de la boxe. Donc, vous voyez, mes trucs vous sont donnés. Et le 22 octobre prochain, on va se diriger au Théâtre Olympia, où là, je suis surpris, on annonce, sais-tu compter, moi, 4, 6, 9 combats de boxe professionnelle. Les débuts pro de Stanisław Gavrilovic, le frère de l'autre, en boxe professionnelle, Derek Pomerleau, Alexis Barrière, Kevin Menoche, Teddy Ozias, Charbonneau Roberge II, Steve Rose de Toronto, Sébastien Bouchard et Brian Jennings. Il n'y a même plus de billets à vendre encore. Les billets sont tout vendus. Il y aura probablement une diffusion télévisée. Donc, gros Yvon Michel qui revient avec une carte complète de 9 combats au Théâtre Olympia. Je suis bien content de ça. On verra combien de combats vont survivre. Mais bon, si on part à 9, on a quand même des bonnes chances de terminer à 6 combats. Puis 6 combats, je vais les prendre, les 6 combats. Moi, je suis pas... Moi, je trouve que dans la vie, si on diminue nos attentes, on peut rester heureux. Tu sais, des fois, on se met nos attentes tellement hautes qu'on est déçu, mais moi, je vais vous dire comment je vois ça. Je regarde avec le prix des billets. Tu sais, mettons, là, tu es quelqu'un qui voudrait aller à Québec, il y a des billets à 39,50 taxes incluses. Au lieu de payer 900$ une table, là, si t'es pas satisfait ou si tu trouves que la carte est un petit peu mauvaise ou que t'es pas heureux, paye donc 39,5$, qui est le prix d'un film avec du popcorn. Puis, bois 2 bières dans le parking pour pas les boire en dedans. Puis à 40$, ben, t'as une maudite bonne soirée. C'est sûr, si t'as acheté 3 tables pour impressionner la galerie sur Facebook, puis que là, t'es pogné, que ça t'a coûté 13,000$ à aller à Québec, tu sais, puis que t'as loué une limousine puis 2 chambres d'hôtel, t'es fâché quand les combats changent. T'sais. Mais restez donc raisonnable, 39,50. Les promoteurs n'aimeront pas ça. Boxe au menu, mes bons amis de Boxe au menu, eux autres, là, c'est comme Boxing Town Québec, mais avec un quotient intellectuel plus élevé. Ils écrivent vraiment bien, puis sont structurés. Arthur Beterbiev est une machine de boxe, mais encore. Puis, en gros, je l'ai vu Arthur Beterbiev hier chez Rival Boxing. C'est vrai, hein? Il a 37 ans. Il a seulement fait 16 combats. Et sa carrière amateur est incroyable. Il s'est battu 6 fois en 5 ans. Il n'y a un seul combat significatif. Il a été blessé. Il y a le ramadan. La télé américaine ne tripe pas tant que ça. On n'a pas comme les combats qu'on veut. Bivol, Gilberto Ramirez, Canelo. À l'époque, Kovalev. Même Kovalev ou Pascal. C'est comme... pourquoi c'est aussi compliqué? Est-ce que c'est parce qu'il craint? Est-ce que c'est parce qu'il est dur à négocier? Et je le sais pas, mais voilà un gars qui a tout le talent, qui est une machine d'entraînement, qui est une bête, qui, je suis certain, a peur de personne. Là, il a 37 ans. Il faudrait vraiment... Il n'a un combat signature. Et oui, et qu'on va se dire que c'était incroyable, c'était pour l'unification, mais là, qu'on amène Bivol, qu'on amène Ramirez, qu'on fasse de lui un top 10 pour 10, de pound for pound, qu'on fasse de lui quelqu'un qui s'en va directement au temple de la renommée. Là. Je dis, les prochains 18 mois vont être cruciaux pour Arthur Beterbiev, puis je suis même un peu en accord avec eux. Est-ce qu'on est en train... Ben, je suis pas en accord avec eux. Là. C'est pas dans le texte, mais est-ce qu'on... Sans dire qu'on perd notre temps, est-ce que on aurait pu faire beaucoup mieux dans son cas, mais comme il y a des circonstances. Mais Arthur, j'espère que dans le prochain 18 mois, tu vas, tu sais, mettre un Bivol puis un Ramirez sur ta fiche, puis que là, on va pouvoir dire pound for pound, puis c'est énorme, Arthur Beterbiev. C'est mon souhait, parce que le gars a l'air bien sympathique. Il m'a fait rire hier. Il arrive avec un suit rival noir, la grosse barbe. On dirait, pour vrai, on dirait qu'il débarque de Russie, là, mais... Il a quand même l'air sympathique. Nous sommes avec Gabrielle, une jeune auditrice du podcast Laurence écoute parler. Gabrielle, tu m'as dit que tu adorais la natation, mais la natation, ça vient avec un inconvénient. Lequel?
Qu'est-ce que j'aime pas avec la natation? C'est que pendant que je suis sous l'eau, je peux pas écouter les podcasts de Laurence écoute parler. Puis c'est bien plate parce que c'est super bon.
Merci. Pas fou comme commentaire, hein? À quoi bon faire de la natation si tu peux pas écouter le podcast Laurence écoute parler en dessous de l'eau. C'est bien beau, t'améliores ta condition physique, mais t'écoutes pas le podcast. La semaine prochaine, on n'a pas le choix d'en parler. Vos préférés, Tyson, ça va bien. En partant, je pars avec le mauvais nom. Anthony Joshua va affronter Alexander Usyk. Et là, il faut admettre que c'est sensationnel. Deux champions olympiques. Usyk a unifié la division des 200. Joshua a détenu 3 des ceintures. Détient toujours 3 ceintures chez les poids lourds. Première fois que 2 médailles d'or olympiques s'affrontent chez les pros, chez les poids lourds. Donc, c'est certain là, que Joshua est largement favori. Mais comment on peut compter pour battu à l'avance Usyk? Je veux dire, personne ne peut faire ça. Joshua, c'est à peu près 6 pieds 4, 6 pieds 6, 245 livres. De son côté, il y a la grandeur, la force, l'expérience chez les professionnels. N'oubliez pas que Usyk s'est battu seulement 2 fois chez les poids lourds. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un moment ou un autre, Joshua va lender sa grosse main droite, puis Usyk va être dans le trouble. Combien de temps Usyk va être capable de causer des problèmes à Joshua avec ses jambes, ses déplacements, sa science? C'est un grand scientifique de boxe, Alexander Usyk. C'est un gars qui est très précis, qui a pris du poids, mais contre Chichora, on l'a senti à un moment donné que c'était un combat difficile quand même par le gabarit puis tout ça. Moi, je serais le premier heureux qu'Usyk gagne. Je suis un méga fan de Usyk, mais je crois que Joshua, ça va être un peu trop pour lui. Joshua, lui, a essayé de perdre du poids pour arriver vraiment plus rapide contre Usyk. Tu sais, quand tu t'en vas affronter une machine de vitesse, mais tu dis, je veux pas avoir l'air trop fou pour une vue vitesse, a coupé un peu de son poids pour gagner de la vitesse. De l'autre côté, Usyk, lui, a gagné en volume pour pas être trop petit. Ça va être de voir s'il a conservé toute cette vitesse-là. Après ça, on a toujours Wilder Fury qui devrait s'en venir le 9 octobre. Le troisième combat, donc, je vais vous dire, présentement, je trippe. Parce que là, tu sais, mettons dans ce quatuor-là, on a l'impression que Wilder est battu à l'avance, mais comment battre à l'avance le gars qui a la plus grosse claque de la boxe professionnelle? Après ça, on a l'impression que Fury est déjà, que Usyk est déjà battu. Mais comment on pourrait voir comme déjà battu Usyk, un médaillé d'or olympique qui a peut-être la plus belle boxe qu'on a vue en fonction de gabarit. Tu sais, un gars de... C'était incroyable de voir un gars de 200 livres se promener comme ça. Puis il est allé battre tout le monde comme un road warrior dans le tournoi. Les Gassiev, les Bredis, ils ont tous vaincu. Puis à l'étranger, par-dessus le marché. Il faut vraiment lever notre chapeau aux réalisations d'Usyk. Déjà. Puis là, il s'en va sur Joshua. Fait que, écoutez, je peux pas. Tant qu'à moi, ces deux combats serrés, ça va être incroyable. Canelo Alvarez contre Caleb Plant, Showtime Pay-Per-View le 6 novembre prochain. Sean Porter et Terence Crawford, c'est réglé. Et attendez-vous à tout un spectacle. Sean Porter, c'est une machine à donner un spectacle. Ça va être effrayant. C'est ça le mot que je cherchais, effrayant. David Benavidez, sa promo est bien partie. Lui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le seul qui va pouvoir vaincre Canelo. Puis il fait bien ses choses de se placer comme le candidat le plus dangereux. T'sais, Canelo a souvent tendance à y aller contre le candidat le plus dangereux. Puis Benavidez s'est établi comme le plus dangereux à 168, autant que Beterbiev, lui, s'est établi à 175 livres. Fait qu'après ça, il restera juste voir Canelo pige qui dans le lot. Golovkin, lui, a confiance que il va affronter Canelo en 2022. On dirait, lui, il veut faire un chèque de paye, puis après ça, prendre sa retraite. Il décroche pas de cette idée-là. Mickey Garcia va affronter Sandor Martin. Il négociait avec Régis Progrès pour un super fight, mais il va prendre Martin pour prendre Progrès plus tard. C'est pas fou. Mickey, tu fais bien les choses. Finalement, Georges Camboso et Teofimo Lopez vont avoir lieu le 4 octobre prochain. Le combat qu'on aura le plus étiré de l'histoire. Tu sais, dans les histoires de combats qui n'ont pas de bon sens, de vedettes de la télévision, vedettes de YouTube, imaginez, la mort aux dames qui a déjà fait des ACV puis des crises de cœur va affronter Riddick Bowe qui a déjà perdu la tête en 2004. Tu sais, ça va. Un peu de sérieux. À un moment donné, on va en perdre un dans le ring de ces vedettes d'Hollywood-là. Tim Zhu va affronter Takeshi Inoue, aspirant numéro 1 contre aspirant numéro 7 en Australie. Bravo, Tim. Belle gestion de carrière. On a peur, il a peur d'absolument rien. Puis lui, il se voit déjà vraiment au sommet de la pyramide. Là. Il met n'importe qui devant lui. Ils ont l'air partis pour dire oui. Sans arrêt. Il n'y a pas de niaisage du côté de Tim Zhu. Sous-carte intéressante de Anthony Joshua contre Alexander Usyk. J'avais oublié de vous en parler. Premièrement, il y a Joshua Usyk avec 3 ceintures en jeu. Il y a Lawrence Okoli qui va affronter un boxeur invaincu du nom de Dylan Brazovic. Boxeur invaincu. Écoutez, l'idée, là, c'est de faire de Okoli une superstar. Callum Smith, qu'on a connu, va affronter Lenin Castillo, correct, chez les 168 livres. Florian Marcoux, qui est un animal avec une grosse force de frappe, va affronter un gars de 19-0 qui est largement favori, Maxime Prodan, un Italien qui s'entraîne en Ukraine. Mais comptez pas pour battu Florian Marcoux. Vous allez voir, il est tough en joie le vert, Florent. Christopher Ouzley, qui lui est un gars de Chicago, un méga prospect, va affronter Kazan Baizangurov, qui est un Ukrainien russe de 21-0 qui s'est fait surprendre par Rob Brent. On est en train de le repartir. Combat 50-50, qu'à votre place, je manquerai pas. Puis il y a la fameuse sous-carte, là, Campbell Hatton, le fils de Ricky, qui affronte des gens qui ont de la misère à marcher de reculons. Parce que ben, il est pas super bon, mais à cause de son nom de famille, il y a absolument personne qui veut démissionner sur lui. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres cartes dans le monde? Je vais vraiment de mémoire, là, j'ai analysé BoxRec. Ben, il y a bien sûr, il y a la carte d'Eye of the Tiger. Jeudi, d'ailleurs, je serai à Québec pour faire des reportages en direct. Moi, c'est facile. C'est mon cœur qui me guide, donc je suis Martine Vallière-Bisson. Et à travers dans le monde, il se passe pas grand-chose. Je sais qu'il y a un gros UFC aussi samedi prochain. Il y a beaucoup de monde qui m'ont invité à aller écouter ça. Moi, ce qui arrive, c'est que j'haïs ça, le UFC, mais j'aime ça être avec mes amis. Puis j'ai des amis qui aiment le UFC, fait que j'y vais, puis je fais juste du social. J'ose à un, j'ose à l'autre, embrasse un bébé, prends un selfie avec une blonde d'un ami. Tu sais, je vois à peine j'écoute le gars-là. Tu sais, mais j'aime les gens. Moi. J'aime le monde. Fait que j'y vais pour le monde plus que pour le UFC. Mais j'admets qu'en finale, c'est souvent bien balancé, puis on nous donne les combats qu'on veut. Mais Laurent s'écoute parler demeurera un podcast 100% boxe. Donc, ailleurs dans le monde, écoutez, il n'y a rien. En fin de semaine, c'était mauvais. Hier, là, samedi dans l'après-midi, je le sais, samedi, c'est la grosse journée d'NCA, football, puis il y avait les Alouettes, puis je suis allé faire un petit 4 à 6 avec une amie, puis j'étais allé chez Rival. Fait, j'étais bien heureux, mais j'aurais aimé ça m'asseoir devant un combat de boxe de qualité. On nous a rien donné. C'était la fin de semaine la plus morte de l'histoire de la boxe. Puis là, je me revire, puis il n'y a rien, là, ben il y a Québec, mais c'est ça, là, c'est bien tranquille, mais ça va repartir, ne vous en faites pas. Donc c'était, en gros, le podcast numéro 93, le podcast de la Coupe Stanley du Canadien. J'ai beaucoup de gens, là, je suis toujours en pourparlers avec beaucoup de monde, comme j'aimerais vraiment avoir les deux jeunes, mais ils m'ont dit qu'ils étaient envahis d'examens, mais je vais parler de sport-études un jour. Après ça, il y a une jeune fille de Québec qui sort de l'école de radiodiffusion qui a fait une chronique sur les 10 meilleurs boxeurs au monde. J'essaie de l'avoir en direct, en vidéo, pour lancer sa carrière. Et j'ai de la misère, là, les jeunes ont des horaires compliqués, fait que j'abandonne pas. Mercredi ou jeudi, je vais partir vers Québec, probablement avec un Amigo Express. Et je vais assister au gala. J'aime vraiment ça être sur place. Il y a une plus-value à être sur place, voir les gens, faire des contacts. Le monde qui t'aime pas sont obligés de coexister avec toi. C'est toujours drôle, ils sont comme mal à l'aise. Je peux embrasser mon parrain, Régent Tremblay. Je peux voir mon meilleur ami, Mathieu Boulay. Il y a un plus à être sur place, c'est le fun. Puis les gens, Eye of the Tiger, souvent, les gens, ils sont joyeux. Tu sais, Clovis Drolet va être sur place quand même. Léla Beaudoin va être dans une belle robe fleurie. Fait que tu peux t'entretenir avec les gens, créer des relations et qui sait, peut-être avoir des nouvelles amitiés. Aussi, je vais être là pour célébrer la victoire de Martine. J'ai déjà hâte qu'elle me fasse un câlin plein de sueur après la victoire avec du sang puis tout pour scraper mon linge. Donc, c'était le podcast numéro 93, podcast en l'honneur de Martine Vallière-Bisson. Toujours Martine, pour conclure, très fier de toi, très fier de ce que tu vas accomplir, la façon que tu t'y prends en boxe. Tout ce qu'on condamne en boxe, ben c'est tout ce que tu fais pas. Mais t'aurais été parfaite dans les années 1800 quand que le monde allait se battre là, à dos de cheval, puis il regardait même pas qui était l'autre bord, puis ça swingait tête première, pas de régie. Mais t'es ce genre de guerrière-là. Donc, bravo! Merci à tout le monde d'avoir été là. L'épisode numéro 93, on prépare une grande fête. J'espère que le coin du métro fermera pas avant l'épisode 100. Comme ça, on est capable de faire l'épisode 100. Sinon, on va faire l'épisode 100 en plein milieu de la rue sur Henri Bourassa pour la jeunesse, entre les autos. Merci d'avoir été là. À la prochaine.
C'est moi, Tarzan le bottine Tyler, qui va rire de vous autres, les Québécois, le monde de la ville de Québec. Parce que mon champion, c'est Keitonga. Il va vous le battre. Il va le battre comme un tapis. Votre équipe Martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant.